Michael, est-ce que tu peux mettre un chant sur le... Qui a chanté ce chant tout à l'heure? Oh, il y en a qui n'osent pas lever la main. J'ai l'impression qu'ils se disent, c'est Pascal, on va s'en prendre plein la figure. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or. La suite. Je n'ai qu'un désir. Est-ce que ce matin, je n'ai qu'un désir, c'est être saint? Est-ce que je veux être mis à part pour le Seigneur? Et quand je vous dis ça, je me pose exactement la même question. Des fois, on chante ce genre de chant et on ne mesure absolument pas les paroles. Mis à part pour toi, Seigneur. Tu peux couper. Le Seigneur m'a emmené, et j'ai vraiment, 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 je peux vous dire, été travaillé sur le premier épître de Jean. Et le Seigneur m'a toujours parlé quand j'étudiais le premier épître de Jean. Et encore maintenant, il me parle très, très fort. D'ailleurs, j'en ai un peu partagé vendredi soir, sur des choses que le Seigneur m'a mis sur le cœur. C'est pour ça que on vient ici dans l'église et on chante, et parfois on ne mesure absolument pas ce qu'on chante. Et je remercie Emmanuel parce qu'en fin de compte, si je m'arrête, je peux m'arrêter maintenant la prédication, parce qu'Emmanuel a fait la prédication. Je vais simplement continuer ce que Emmanuel a dit ce matin. Donc, je vais faire comme Paul. Je vais appeler Clémence et je vais demander qu'elle lise. Et j'aimerais bien que chacun, on puisse écouter ce qu'elle va lire.
Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché, quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise, celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pèche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est ce que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui.
Donc en fait, Ponte, ici, Jean nous donne un superbe album de famille. Il y a deux familles. Il n'y a que deux familles. Il n'y a pas une et on est en train de devenir l'autre. C'est il y a deux familles. La famille de Dieu, la famille du diable. Et j'ai beaucoup été travaillé parce que si vous avez compté, il y a sept quiconque. Sept fois est nommé le mot quiconque. Et je crois que ce qui est important, c'est de voir la plénitude. Si on arrive à, quelque part, à arriver dans cette perfection, c'est-à-dire ne être dans certains quiconques et ne pas être dans certains autres quiconques, on atteint la perfection et là, on est dans la famille de Dieu. Ce que je suis en train de vous dire, c'est simplement ce que Emmanuel vous a dit ce matin. Soit vous êtes de Dieu, soit vous êtes du diable. Et quand je dis vous, je me mets dedans également. On est malheureusement dans des églises où il y a un évangile qui est prêché, l'évangile qui fait du bien aux oreilles, l'évangile où on ne parle plus de repentance, où on ne parle plus de marcher selon l'esprit, on ne parle plus de la vérité de Jésus. On parle d'un évangile qui est... Tu verras, le Seigneur va travailler ton cœur. Avec l'aide de Dieu. Ce qu'on a oublié, c'est que parfois, Dieu n'est même pas dans notre cœur. Il n'est même pas dans nos pensées. Et ce qui fait que Dieu ne viendra jamais, puisqu'il n'y est pas invité. Est-ce que ce matin, j'ai envie d'inviter le Seigneur à travailler mon cœur? Est-ce que j'ai envie que ma vie change? Est-ce que j'ai envie d'être dans la lumière et pas dans les ténèbres? Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il n'y a pas de niveau de gris dans Jean. Je suis dans la lumière ou je suis dans les ténèbres. Tous les contrastes y sont. Vous avez Dieu, Satan, l'amour, la haine, la lumière, les ténèbres. Lisez le premier épître de Jean. Lisez-le une fois, deux fois, lisez-le 10 fois. Je l'ai lu 10 fois d'affilée. Et je peux vous dire que quand vous lisez le premier épître de Jean, vous savez exactement où vous vous trouvez. Et c'est là où on a une responsabilité. C'est lorsqu'on ne se met pas devant le Seigneur et qu'on se laisse bercer par cette image de religiosité, comme a dit Emmanuel ce matin. Parce que je suis désolé, pour certains, c'est la religiosité. Il n'y a rien comme racine de Dieu dans nos cœurs. La question, c'est est-ce que je pratique la vérité dans mon cœur ? Est-ce que je pratique la vérité ? La vérité, c'est Christ en moi et rien d'autre. Est-ce que je suis haï par le monde, comme il est dit dans ces versets ? Ou alors est-ce que je suis aimé du monde parce que je fais les mêmes choses que le monde ? Et si le monde ne me connaît pas, gloire à Dieu. Parce que ça veut dire que je ne suis pas ce monde qui est en train de s'effondrer. Et moi, je suis désolé de vous dire ce matin, pourquoi on a peur que Jill s'en aille? Est-ce que c'est normal qu'on ait peur que Jill s'en aille? Mais où est notre foi? Ça veut dire que Jill tient toute l'Église. Ça veut dire que vous n'êtes aucunement des piliers de l'Église. Mais où est votre foi? Est-ce que Jésus est dans votre barque? Est-ce que maintenant vous allez voir arriver la tempête parce que Jill s'en va? Mais est-ce que Jill est Jésus-Christ? Si vous avez ces peurs-là, je peux vous dire une chose, et je vous le dis sincèrement, honnêtement, c'est que Christ n'est pas dans votre vie. Je suis désolé de vous le dire. Relisez ce qu'on vient de lire. C'est grave. Et je ne veux pas mettre mal à l'aise Jill. Aucunement, elle connaît parfaitement tout l'amour que j'ai pour elle. Et elle est d'accord, je suis persuadé avec ce que je dis. Moi, je peux mourir demain, l'église d'Asbrook ne s'effondrera pas. Parce que vous en êtes les piliers. Nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. On est de la même nature que Jésus-Christ. Si on se déclare chrétien, on est de la même nature que Jésus-Christ. Et ce que nous sommes aujourd'hui n'est pas encore révélé, parce qu'on est dans le monde, on est à part du monde, mais dans le monde. Et ce qu'on sera révélé lorsque Christ reviendra. Notre corps sera glorifié, parce que nous serons semblables à lui. Mais pour ça, il faut déjà en avoir les prémices sur terre. En 1 Corinthiens chapitre 15, versets 48-49, « Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. » La question ce matin, est-ce que je suis terrestre ou est-ce que je suis céleste? Est-ce que cette espérance, est-ce que l'espérance est au fond de moi de porter un jour l'image du céleste? Lorsque Jésus va revenir, il sait déjà qui il va reprendre avec lui. Celui qui est à son image. Rappelez-vous l'aimant qui passe au-dessus d'un monde limaille. L'aimant ne prendra que le fer. Il ne prendra pas l'alu. Il ne prendra pas le plastique, il va prendre le fer, c'est le seul métal qu'il va attirer. Jésus n'attirera que celui qui est à son image. Et l'espérance, c'est cette espérance qu'on doit avoir en nous, c'est ressembler à Christ. Pour qu'à la fin, il nous transforme à son image. En Philippiens, chapitre 3, verset 20-21, « Mais notre cité à nous est dans les cieux. » Est-ce qu'elle est dans les cieux? Ou est-ce qu'elle est sur terre, attachée à des idoles, comme il a été dit ce matin? Nous nous attendons aussi comme le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, c'est-à-dire ce corps ici. Je n'ai qu'un souhait, c'est que je sorte de cette tente, dit Paul, en le rendant semblable à un corps, au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Christ a le pouvoir de nous aspirer. Est-ce qu'on en a, nous, le cœur? Cette espérance doit avoir des effets pratiques dans notre vie. C'est avoir la soif de la parole de Dieu. La soif de ressembler à Christ. Et ressembler à Christ, c'est vraiment épouser les choses de Christ. Épouser sa parole, épouser sa cause. Est-ce que c'est mon désir? On se purifie parce que Christ est pur. Il n'a jamais connu l'impureté. Il était sans péché. Et on se garde du mal lorsqu'on s'approche de Jésus-Christ. On est gardé du mal. Approchez-vous de Dieu et le diable fuira loin de vous. Bien sûr, dans la pratique, c'est impossible d'être parfait. Et justement, je vais le citer plusieurs fois, parce que si ce matin je suis en train de vous dire que je ne pêche pas, que je suis quelqu'un de parfait, je mens. Je vous mens, mais surtout je mens à Dieu. Parce que si vous lisez le chapitre 1, le verset 8 de 1 Jean, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » Si aujourd'hui je venais à dire que je suis parfait, moi qui vous parle à ce micro, je suis quelqu'un de très bien. Je suis à l'image de Christ. Je suis un menteur. et je glorifie le Seigneur que je ne suis pas parfait, parce que ça me permet de revenir au quotidien au pied de sa croix et de demander pardon pour ce que j'ai encore témoigné vendredi soir. Si on ne fait pas ces choses-là, on ne ressemblera pas à Christ, parce qu'on veut être l'égal de Christ. On se déclare ouvertement égal de Christ. Mais moi qui vous parle, j'ai une nature humaine. La seule différence, et vous l'avez également, c'est que vous avez la grâce de Dieu. Quand je discute dans mon travail, je dis souvent, qu'est-ce qui m'empêche de tuer ? Qu'est-ce qui m'empêche de violer ? Qu'est-ce qui m'empêche de faire tout et n'importe quoi ? C'est la grâce de Dieu. Je suis bâti exactement comme le plus grand des meurtriers. Et pourtant, c'est la grâce de Dieu qui m'empêche de faire ces choses. Il y a des mises en garde qui vont suivre. Et ces mises en garde nous empêchent de nous séduire nous-mêmes sur ce qu'on est, sur cette religiosité, sur le fait que peut-être on vient à l'église parce qu'on donne une image qui est totalement différente à ce que nous sommes la semaine. Verset 4. Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quand on lit ce verset, on se dit, mais je pêche. Et pourtant, quand vous creusez, quand vous méditez vraiment ces versets, vous allez vite comprendre que là, on parle de pratique. Et regardez bien comment le temps de ce verbe, pratique, c'est-à-dire demeurer dedans, pratiquer au quotidien. On pratique de manière égocentrique, sans foi, sans loi, comme si c'était normal. C'est ce qu'est en train de dire Jean. Celui qui pratique le péché, sans que ça l'atteigne, sans que quelque part ça alerte des choses dans sa tête et sur son cœur, celui-là est du diable. Puisque sinon il n'aurait jamais parlé au verset 8 du chapitre 1, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Mais c'est le fait de rester dedans. C'est le fait de demeurer et d'être bien dans cette situation. Est-ce que je suis bien ce matin dans mon péché? J'ai encore la vision de Jésus, malgré ces choses dans ma vie. Est-ce que je suis indépendant? Ma volonté est indépendante? Ou est-ce que ma volonté est soumise à Jésus? Il est important pour un chrétien de comprendre ce qu'est le péché. Il est important de comprendre que mes fautes ne sont pas des peccadilles. C'est-à-dire qu'il y a des degrés de péché. Il y a les petits péchés et il y a les grands péchés. Le péché est le péché. Et Christ est mort pour ça. C'est pas des petites pécadouilles, c'est pas des faiblesses de comportement. C'est pas un héritage de jeunesse. C'est un choix de vie. Lorsque je pêche, c'est que je choisis de le faire. Et quand je dis je pêche, c'est pêcher dans la continuité. C'est-à-dire continuer à pécher. Que savoir que le péché dans ma vie, ça ne m'atteint pas. Parce qu'avec l'aide de Dieu. Ce qu'on oublie, c'est que Le péché et Dieu ne peuvent pas se mélanger. Est-ce qu'on l'a oublié, ça? Il faudra passer par le feu à un moment donné. Il faudra que ma volonté s'agenouille devant Dieu. Sinon, je fais partie de la deuxième famille, celle du diable. Et ce germe que j'ai en moi, c'est un germe de rébellion contre Dieu. Lorsque je commence à comprendre ces choses, je comprends qu'il y a des choses dans ma vie qui sont mauvaises. Et c'est là où je deviens sérieux, c'est là où je connais la repentance. Parce que je compare, comme Jean compare, la lumière aux ténèbres. Ce matin, c'est est-ce que je suis dans la lumière ou est-ce que je suis dans les ténèbres? Est-ce que j'aime être dans le péché en disant « Dieu va intervenir ». Mais Dieu n'intervient que si l'on prend conscience de notre état. Dieu n'intervient que si l'on crie dans cet état. J'ai donné l'exemple, Bartimée, quand il est allé voir Jésus, Jésus savait très bien qu'il était aveugle. Et pourtant, il lui a posé cette question, « Que veux-tu que je te fasse ?» Parce qu'il voulait que Bartimée lui dise « Que je recouvre la vue. » Et est-ce que ce matin, vous voulez retrouver la vue? Parce qu'ici, il est question de vie spirituelle. Il n'est pas question de la vue physique, mais c'est vue spirituelle. Est-ce que vous voulez retrouver la vision spirituelle? Est-ce que vous voulez marcher selon l'esprit? Christ est venu justement pour ôter nos péchés. En 1 Pierre chapitre 3 verset 18, nous pouvons lire « Il a souffert pour les péchés, le juste pour les injustes. » Il a souffert pour nous. Il a souffert pour que cette racine de péché, que peut-être je considère pas grand-chose parce que c'est un petit péché, mais Jésus a souffert pour cette petite chose. Il a souffert pour chacun d'entre nous. Et est-ce que ce matin, j'aime à demeurer dans ses péchés? Le troisième quiconque, c'est quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Verset 6. Le Seigneur a enlevé le péché et il est aujourd'hui lui-même une demeure où le péché n'est plus. C'est pour ça que il faut pas se bercer d'illusions. Si on aime vivre dans ce péché, si on a le péché au quotidien dans notre vie, Jésus n'y est pas. Jésus n'y est pas. Jésus peut venir pour purifier, mais il ne peut pas venir dans notre demeure et vivre avec le péché. C'est impossible. Ça doit être le statut du chrétien, ne pas pratiquer le péché. Et c'est pour cette raison que normalement nous ne péchons pas. Et là j'insiste bien, c'est pas le fait de dire « Ah, j'ai fait une erreur », le Seigneur le sait. Le Seigneur sait parfaitement qu'on peut chuter. La différence c'est « Est-ce que je reste dans ces choses ?» Si je fais le point de ma vie aujourd'hui, dans quelle chose je reste? Le mensonge, l'alcool, la pornographie, l'informatique, la télé, tout ce que vous voulez. Est-ce que je pratique ces choses? Est-ce que je veux mélanger Jésus à ces choses? Le verbe péché ici est au présent, comme je vous ai dit, et il marque l'habitude, la continuité. En 1 Jean chapitre 1 verset 10, il dit si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Là aussi, c'est important de considérer qu'on peut avoir, on peut chuter. Le Seigneur le sait. Et la grande différence, c'est de pratiquer au quotidien le péché. La différence, elle est là. Le premier épître de Jean insiste là-dessus. Si l'on pratique le péché, pratiquer, ça veut dire c'est faire au quotidien. Sans peur, sans crainte de Dieu. Est-ce que c'est ma raison de vivre? Est-ce que je le fais? Et est-ce que malgré cela, je viens le dimanche et je loue le Seigneur? Si c'est le cas, mes bien-aimés, vos prières et vos louanges ne dépassent pas le plafond. Et ce que je vous dis, je le dis pour moi également. Ça ne dépasse pas le plafond. Parce que pratiquer le péché et prétendre en même temps être enfant de Dieu, c'est d'une incohérence pas possible. Celui qui est en relation avec Christ ne pêche pas. Et je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne chute pas, mais ne pêche pas. Dans la continuité. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu. Si quelqu'un pratique le péché 100 fois, l'île noie, c'est-à-dire au quotidien, comme si de rien n'était, il ne demeure absolument pas en Christ. Il n'a jamais connu la nouvelle naissance. C'est pas possible. Si je vous dis autre chose aujourd'hui, je suis anathème. Christ ne se mélange pas avec le péché. Christ intervient dans nos vies pour ôter le péché. Il a été vainqueur sur la croix. Il a le pouvoir de le faire sur nos vies. Mais c'est pas possible de dire « Je suis enfant de Dieu » si je demeure dans le péché. C'est pas possible. En 3 Jean, la continuité, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, verset 11, « Bien-aimés, n'imitez pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. » C'est la parole de Dieu qui vous le dit. Celui qui continue à faire le mal, qui reste dedans, qui se sent bien, n'a absolument pas connu Dieu. J'invente rien. Celui-là n'est absolument pas né de nouveau. Je vous répète, si je vous dis autre chose aujourd'hui, je suis anathème. L'apôtre ici est en train de dénoncer les séducteurs qui ont pour chef de famille le diable. Il désire simplement une chose, qu'on ne se séduise pas nous-mêmes. Que notre jugement ne soit pas altéré par notre façon de paraître et pas notre façon d'être. Parce que 1 Jean fait la différence ici, dans le premier épître de Jean, si vous lisez, vous verrez cette différence. Il y a cette différence flagrante entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Et Jean ne s'arrête pas sur un fait dans la vie. Il s'arrête sur ce que représente la vie de la personne. Vous comprenez la différence? C'est-à-dire qu'il n'est pas accusateur sur quelqu'un qui va chuter, mais il est accusateur sur quelqu'un qui demeure dans le péché, qui se sent bien, comme Daniel Scherrer nous l'a déjà expliqué. Là, il devient accusateur. Là, il dit, tu n'es pas né de nouveau. Tu n'as pas vu Dieu. Celui qui est dans le péché montre clairement qu'il est de la famille du diable. En Jean 8, 44, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Le terme commencement ici, dans ce verset, est certainement en train d'indiquer le moment où il y a eu cette rébellion de Satan contre Dieu. Au commencement, dès le début. Mais on peut louer le Seigneur que le Fils de Dieu est paru. Et lui-même, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Par sa mort, Jésus l'a rendu impuissant. Est-ce que ce matin, on veut faire nôtre la mort de Jésus-Christ dans nos vies? Est-ce qu'on veut annihiler les œuvres du diable dans nos vies? Est-ce qu'on veut balayer cette religiosité, cette bonne image qu'on donne à nos frères et sœurs? Parce que vous verrez plus loin qu'en ayant cette attitude-là, on est des meurtriers. Parce que on peut être une occasion de chute pour nos frères et sœurs. Il est impossible que le chrétien pactise avec le péché. Parce que pactiser avec le péché, c'est pactiser avec le diable. Et Jésus n'est pas en celui qui pactise avec le diable. Et je vous répète que je ne suis pas en train de vous dire que c'est pour un petit péché, une chute. Je suis en train de vous dire que c'est pour celui qui reste dans cet état, sans foi ni loi, qu'il est bien dans son péché. Cinquième, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Verset 9. C'est un verset qui peut parfaitement troubler. Moi, quand je l'avais lu, en son temps, j'avais été troublé par ça. Et j'ai dit au Seigneur, mais parle-moi là-dessus. Éclaire-moi. Parce que c'est pas possible qu'on ne pêche plus. Et en fin de compte, j'ai clairement ressenti le fait que il n'est pas dit ici, et je vous le répète, que le chrétien ne peut plus commettre de péché. C'est absolument pas ce qui est dit. Parce que encore une fois, si on dit que je ne pêche plus, je suis parfait, on contredit le verset 8 du chapitre 1, qui dit que je suis séducteur si je dis que je ne pêche pas. C'est simplement en train de dire ici que le croyant ne reste pas dans cet état. Il ne veut pas. Le vrai croyant ne peut pas rester dans cet état de pécheur. Et lorsqu'il est dans un état, il se met devant le Seigneur et c'est ce qu'on appelle la repentance. Seigneur, je te donne ces choses. Ça envahit ma vie. Ça envahit ma vie, ça me submerge. Et le Seigneur sait, le Seigneur connaît. Mais que veux-tu que je te fasse? Il attend de nous que nous disions ce qui ne va pas. Il a dit à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Et pourtant, il était Jésus. Il savait parfaitement que Bartimée ne voyait pas clair. Mais il lui pose la question. Vous imaginez ses disciples, il dit, mais attends, tu ne vois pas qu'il est aveugle? Tu sais très bien ce qu'il va te demander. Non, non. Jésus voulait que Bartimée dise que je recouvre la vue. Parce qu'il savait qu'en disant ces choses, il savait que Jésus avait l'autorité de lui redonner la vue. Est-ce que ce matin, je veux que l'autorité de Jésus soit dans ma vie? Parce qu'il peut me libérer. Il peut me libérer de tout ce qui est dans mon quotidien. De toutes ces idoles. De toutes ces choses qui font qu'aujourd'hui, je ne suis pas enfant de Dieu. Et ce que je demande, c'est que ce matin, peut-être, l'Esprit de Dieu vous travaille. et vous disent, mais est-ce que je suis sur ce chemin, sur cette vérité et dans cette vie nouvelle que Jésus m'a promis? Parce que le vrai croyant né de Dieu ne peut pas pécher, ou ne peut pas rester dans cet état de péché. L'apôtre ne dit pas que celui qui a la nature divine, qui est né de nouveau, ne peut pas pécher. Ce n'est pas ce que l'apôtre est en train de dire. Mais c'est que le croyant lui-même ne peut pas rester dans cet état de péché. Le vrai croyant ne peut pas avoir un état où il a un péché qui demeure dans sa vie. Ce n'est pas possible. Parce qu'ici, Jean identifie le vrai croyant à la nature divine de Dieu, celle que Dieu lui a donnée en fin de compte. Et c'est pour ça que le vrai croyant ne pratique pas le péché. Il y a l'image, j'ai trouvé une image, c'est une cuve en galvanisé. Normalement, elle ne rouille pas. Elle ne rouille absolument pas, vous pouvez la laisser. J'en ai une qui est dehors actuellement. Elle n'est pas rouillée. Mais, où il y a eu des petits coups, des petits chocs, il y a des petits points de rouille. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Nous, on ne peut pas rouiller. Mais il y a eu des petits points de rouille. Il y a des petits points de rouille qui fait qu'il y a des péchés dans nos vies. Mais il y a une différence entre le fait que tout notre être peut rouiller. C'est-à-dire qu'on n'a pas cet état divin. L'image, elle est là. Et le Seigneur, ce matin, veut peut-être donner aux uns ou aux autres le fait de ne pas rouiller. Le fait que la teigne ne peut plus vous atteindre. Sans pour autant faire que dans vos vies, il y ait ces petits points qui vous rappellent qu'il faut se mettre sous la croix et demander au Seigneur, viens dans ma vie, ôte-moi ces choses. C'est pour ça que vous pouvez lire ce verset qui dit « Tentez à la perfection ». Il faut tendre chacun à la perfection. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Verset 10. En fin de compte, ici, l'homme se comporte exactement de la même nature qu'il possède. Si vous avez la nature de Dieu, vous allez vous comporter selon la nature de Dieu. Si vous avez la nature du diable, vous allez vous comporter de la même nature que le diable. La nature déchue d'Adam avait été assujettie à la nature du diable. Il faut l'intervention de Dieu dans nos vies pour couper cette nature. Le croyant né de nouveau, uni à Christ, participe à cette vie divine. Et Dieu lui a donné une nouvelle nature. Une nouvelle nature qui ne peut pas demeurer dans le péché. Mais bien sûr, si vous lisez Romains chapitre 7, versets 14 à 20, vous lirez que l'homme a quand même la nature, la chair dans sa vie. C'est l'épisode où Paul dit qu'il aimerait bien faire des choses bien, mais il fait des choses mal et inversement. Le croyant, en fin de compte, si vous regardez le départ, le croyant a reçu une nature mauvaise. Tout le monde, chacun, on a reçu la nature d'Adam. Et si vous dites non, je vais vous dire, si tu sors de l'église. On a tous reçu la nature d'Adam, cette nature de pécheur, cette nature du mal, mais il faut la tenir dans la mort du Christ. En Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Qui est-ce qui vit en moi ce matin? Quel est le chef de ma famille? Ôtons ce matin tous les voiles religieux, tous les voiles de l'Église. Mettons face à nous Jésus-Christ et sa parole. Regardons la parole de Jésus, pas les chapitres qui font du bien, mais les chapitres qui nous remettent en question, qui nous disent de quelle famille je fais partie. Est-ce que je fais partie ce matin de la famille de Dieu? Ou est-ce que je fais partie de la famille du diable? Vous savez, il y aura un test qui sera fatal. C'est lorsque Jésus va revenir. Est-ce que je vais rester assis dans l'église à louer? Ou est-ce que je vais disparaître avec Christ? C'est quoi mon espérance ce matin? Qui est-ce qui me séduit ce matin? Est-ce que c'est mon comportement? Ou est-ce que c'est Christ qui vit réellement en moi? L'esprit qui est en nous doit rejeter obligatoirement toutes ces manifestations du péché. Ça doit être révulsant. Parce que le diable utilise tous les moyens, même les parties les plus secrètes de notre vie, nos penchants, il les utilise. Et c'est l'Esprit de Dieu qui doit rejeter. Romains 8, verset 13, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Est-ce que j'ai envie de faire mourir les actions du corps? Est-ce que ce que je déclare ce matin est la vérité? Ou est-ce que c'est un amalgame de religion? Normalement, on doit marcher selon la nature qu'on a reçue de Dieu. Et l'épreuve caractéristique, c'est une justice pratique et l'amour des frères et sœurs. Même l'amour de son pire ennemi. J'ai raconté une histoire. C'est une dame, je vais essayer d'écourter au maximum, et vous allez voir à quel point je me suis posé la question. Je vous avoue sincèrement, est-ce que j'en aurai les capacités? C'est une dame qui vivait au Botswana avec son mari. Elle annonçait la parole de Dieu, son mari également. Ils avaient déjà reçu des menaces. Et il avait toujours dit à son fils, même s'il m'arrive quelque chose, donc il chantait sur la route, il avait toujours dit à son fils, même s'il m'arrive quelque chose, tu continueras à chanter. Et bien sûr, ce qui devait arriver est arrivé. Ils se sont fait arrêter sur la route. Il a été tiré de la voiture. Elle a été massacrée devant les yeux de l'enfant. Et l'enfant est rentré chez lui, il a hurlé, hurlé de pleurs toute la nuit. Et le matin même, la maman a entendu ce gamin qui louait le Seigneur et qui chantait. Et cette dame a continué à annoncer la parole de Dieu. Elle allait d'église en église, et un jour elle est arrivée, elle a annoncé la parole de Dieu, et puis il y a un gars qui s'est avancé. Il a regardé, il a dit « Je veux ton Jésus, parce que j'ai fait partie du groupe qui a tué ton mari. » Elle a pris cet homme, elle l'a serré dans ses bras. Elle l'a aimé et elle lui a pardonné. Voici la vraie nature du chrétien. La question c'est, est-ce que moi j'en suis capable aujourd'hui ? Est-ce qu'on en est capable? Est-ce qu'on est capable de pardonner même la plus petite attaque sur notre moi? Même lorsqu'on nous dit des choses, est-ce que j'ai pas envie de... Ou est-ce que j'ai envie d'aimer? Est-ce que j'ai envie de me dire que la personne qui est devant moi, elle est plus grande que moi? Même si c'est le pire de tous. Voilà les caractéristiques d'une vie nouvelle. Il y a deux groupes d'hommes, les enfants de Dieu et les enfants du diable. Seuls les actes vont distinguer. Et ce n'est pas les actes faits dans une église. Ce n'est pas les actes que vous voyez tous les dimanches. Est-ce que j'accepterai qu'on me filme à mon insu toute la semaine et que le dimanche on arrive, et regardez, voilà Pascal. Est-ce que j'aimerais? Est-ce que j'aimerais? Ou est-ce que, bah oui, allez-y, pas de problème. Il n'y a aucun problème. Il y a cette distinction entre pratiquer le mal et pratiquer le bien. Le dernier, en fin de compte, qui pour moi est le plus parlant. Quiconque est son frère est un meurtrier. Avant d'en arriver là, bien sûr, l'apôtre fait tout l'historique de Caïn et Abel. Et selon lui, l'amour qui vient de Dieu ne peut pas venir de la nature humaine. L'amour, parfois qu'on montre, peut venir du diable. Parce que le diable sait nous manipuler. Il sait comment faire pour passer par la porte de derrière alors que la porte de devant est blindée. Parce que quand vous savez que la porte de devant est blindée, il faut passer par la fenêtre. C'est ce que fait le diable au quotidien avec nous. Et il peut vous faire croire que vous agissez selon l'amour de Dieu. Et puis en fin de compte, vous agissez selon votre amour. C'est-à-dire que vous êtes en train, ou on est en train, de satisfaire notre ego, notre moi. Caïn a tué Abel parce que il convoitait les biens, tout simplement. Il était jaloux de ce que Abel avait. Et que ça avait une conséquence. Il ne voyait absolument pas la foi d'Abel. Il voyait que tout ce qui était extérieur. Et ici, j'en mets en opposition le comportement de Caïn avec l'amour des frères, entre frères. Il y a trois possibilités. L'amour, la haine, la neutralité. La neutralité, c'est « celui-là, il m'embête, je vais faire comme s'il n'existait pas ». L'amour de Christ, dans un croyant, ne peut pas être neutre. Elle doit se voir. Elle aime positivement ce qui est de Dieu. Celui qui est chrétien et qui dit et qui n'aime pas son frère, en fin de compte, n'est absolument pas de Dieu. J'ai oublié mes lunettes, mais est-ce que je vais demander à José s'il peut venir lire chapitre 2, verset 9. Ouais. Un Jean 2 jusqu'à la fin. Alors, bah tiens, c'est dessus. Là.
Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux.
Donc, est-ce que j'ai quelque chose à ajouter à ces versets-là ? À partir du moment où je n'ai pas l'amour, et quand je dis l'amour, c'est l'amour de Dieu pour mon frère, pour ma sœur, pour nos gens qui sont à Calais, pour mon pire ennemi, je suis dans les ténèbres. Je ne suis pas, absolument pas dans la lumière. Où je me trouve ce matin. Où je me trouve ce matin quand je me fais insulter dans la rue lorsque j'essaie de faire appliquer la loi. Où je me trouve ce matin lorsqu'un frère ou une sœur a un problème et que je juge. Où je me trouve ce matin lorsque je me sens supérieur à mon frère ou à ma sœur. Je suis un meurtrier. Je suis un meurtrier. Parce que non seulement ce n'est pas l'amour de Dieu qui est en moi, mais je fais fuir les gens de cet amour pur de Dieu. Vous comprenez, s'il y a tout le tralala, si les gens arrivent dans une église, nous voient louer Seigneur, nous voient faire de très belles prières, et qu'un jour il vient, il nous dit « Mais bon, il y a un truc que j'aime pas en toi, et ceci, cela », on commence à entrer dans une fureur pas possible. Quel témoignage je donne. Et ici, quand on parle de meurtrier, on ne parle pas de tuer quelqu'un physiquement, on parle de tuer quelqu'un spirituellement. Est-ce que j'ai déjà tué quelqu'un spirituellement ? Par un comportement ? Par un jugement ? Ou est-ce que je me dis, comme j'ai dit tout à l'heure, mais non, je suis parfaitement capable d'en faire autant ? Ou est-ce que je dis à mon frère ou à ma sœur, mais non, viens, on va prier pour cette situation. Lorsqu'on a ce genre de comportement, on montre simplement une chose, c'est qu'on n'a absolument pas la vie éternelle en nous. On n'est pas de la famille de Dieu, on est de la famille du diable. Moi, je vous invite à relire le premier épître de Jean, et à le méditer tous les jours, même si ça vous fait mal. Moi, ça m'a fait énormément de mal, parce que j'ai vu une chose, c'est que j'étais absolument pas chrétien. Et je l'ai étudié 10 fois. 10 fois, je l'ai lu, relu. Et un jour, je me suis mis devant le Seigneur, j'ai dit, c'est pas possible, je suis comme ça. Et en 2003, il a fait provoquer une chose dans ma vie, et j'ai clairement entendu, règle ta vie. J'avais absolument pas la vie de Dieu dans ma vie. Pourtant, j'étais là tous les dimanches. Je faisais, je crois, en ce temps-là, je faisais des prédications, oui, je faisais des belles prédications. Et j'avais absolument pas la vie de Dieu dans ma vie. Je vivais religieusement, et je vous le témoigne. En conclusion, à la fin du troisième épître, l'apôtre termine par « Salut les amis ». Cette parole a été sur l'élève de Jésus, pour parler de ses chers disciples et à ceux qui viendront à croire en lui. En Jean chapitre 15, verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ». Jésus 15, 14, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Jean 15, 15, « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Ainsi, les amis du Seigneur ont Christ comme sauveur. Ils sont placés au bénéfice de sa mort. Ils sont obéissants à sa parole et à ses commandements. Et bien plus, ils sont introduits dans l'intimité des pensées de Dieu, parce qu'ils partagent la vie de Dieu. Suis-je ce matin un ami ou un ennemi de Christ ? Ce matin, j'aimerais que chacun puisse prendre l'engagement de poser des actes sur nos paroles. Si je ne le suis pas, je ne le dis pas. Sinon, je suis anathème. On va trouver des réponses dans les quiconques. Je suis de Dieu ou je suis du diable. Mais sachez que l'amour de Dieu est au-dessus de ce qu'on peut penser. Peut-être le Seigneur attend, et c'est certainement, le Seigneur attend une chose. Que veux-tu que je te fasse ? Que je recouvre la vue. Le Seigneur attend une chose, c'est qu'on lui dise nos péchés. Ceux dans lesquels je me sens bien tous les matins. Ceux qui me dérangent absolument pas et qui m'empêchent même pas de venir ici, de demander des beaux chants. Et quand je vous dis ça, je me le dis ça moi également. Parce qu'il faut pas vous leurrer. En Galates 6, 7, chapitre 6, versets 7 à 10, je vais vous dire, je terminerai par ce verset et je vous demande vraiment de reprendre ce verset, de réfléchir énormément à ça. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers vous, envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Même si ces paroles semblent dures, mais ces paroles viennent de la Bible, de ce que tu as donné aux hommes. Seigneur, même pour moi, je l'ai pris pour un temps, pour un avertissement pour ma vie. Et j'ai continué malgré tout à vivre dans cette vie qui n'était pas la vie que tu voulais pour moi. Et je te rends grâce parce que tu m'as interpellé un jour. Et Seigneur, que ce matin tu puisses interpeller mes frères et sœurs. Empêche le diable de séduire, de faire croire que. Mais Seigneur, que tu puisses par ton esprit faire recouvrer la vue à ceux qui te le demandent. Seigneur, que nous puissions chacun marcher ensemble selon l'Esprit, mais ton Esprit et non l'Esprit de ce monde. Seigneur, je sais que si nous sommes de ta famille, nous serons haïs par le monde, et je veux être haï par le monde, parce que je veux la vérité en moi. Seigneur, que ce matin, tu puisses saisir ceux qui ont cette soif d'appartenir à ta famille. Seigneur, que tu puisses encore parler avec puissance. Et Seigneur, que tu puisses encore ce matin faire naître de nouveau ceux qui ont cru être sur le chemin et qui ont été emmenés loin de ce chemin. Apprends-nous à t'aimer, apprends-nous à te louer, apprends-nous à te prier, apprends-nous qui es-tu vraiment, Seigneur. Et Seigneur, fais ces choses par ton esprit. Amen.